Histoire de Palestine. Une émission proposée et réalisée par le collectif Palestine 12. Aujourd'hui, Gaza, la vie, entretien avec Ziad Medouk.
Bonjour à tous. Lors de la précédente émission, Sarah Katz, juive militante, nous a expliqué son parcours et comment la résistance internationale a mis en place en 2010 les flottilles, ces bateaux essayant de gagner Gaza par la mer pour apporter un soutien aux Gazaouis. Aujourd'hui, nous sommes à Gaza en direct avec Ziad. Avant de l'écouter, nous voulions rappeler quelques dates cadrant les événements à Gaza. D'abord, sur la politique d'occupation. 1967, Israël occupe Gaza et la Cisjordanie. 1993, les accords d'Oslo. 2005, le désengagement d'Israël, l'armée israélienne et les colons quittent Gaza. 2007, la prise de contrôle par le Hamas resserre le siège et Israël impose un blocus terrestre. Ensuite, sur la politique israélienne, eh bien en 2006, le Hamas gagne les élections législatives. Sur la répression israélienne, de nombreuses agressions médiatiquement identifiées sont répertoriées, mais les agressions quotidiennes de la part de l'armée sont fréquentes. Mais nous pouvons retenir 2008-2009, la première agression israélienne avec 1440 Palestiniens tués. 2012, la seconde agression israélienne qui tue 167 Palestiniens. 2014, la troisième agression israélienne avec plus de 2200 Palestiniens tués. 2020, le confinement sous blocus pendant le Covid. Pendant 12 nuits consécutives, l'armée israélienne bombarde Gaza. 2021, Gaza à nouveau sous les bombes et toujours sous blocus. Et 2022, pareil. Par contre, il faut noter que l'ONU, donc en 2019, suite à une commission d'enquête mise en place par le Conseil des droits de l'homme, indique clairement qu'Israël a commis des actions qui pourraient constituer des crimes de guerre, voire des crimes contre l'humanité. La résistance, Ziad va nous en parler.
Alors oui, Ziad, est-ce que tu peux te présenter un petit peu d'abord? Certains m'y avouent, t'ont connu lorsque tu es passé à l'automne 2019 à Millau. Mais comment te présenterais-tu?
D'abord, bonjour Hervé, bonjour Isabelle, bonjour le collectif Palestine 12, bonjour Nicolas, Radio Larzac. Donc merci pour cette occasion, c'est toujours un plaisir d'échanger avec vous, les militants de la justice. Et donc, c'est Ziad Medouk, professeur de français, chercheur francophone, écrivain et poète d'expression française et simple citoyen palestinien qui vit le blocus, qui vit les différentes agressions de l'occupation israélienne au quotidien.
Oui, alors, tu es quand même une personnalité assez particulière parce que tu écris, donc tu parles très bien français, tu écris en français, tu as publié de nombreux livres de poésie et tu as reçu des prix littéraires. Tu peux nous en citer quelques-uns ?
Bien sûr, donc je suis écrivain et poète d'expression. J'ai publié 13 livres et recueils de poésie donc, en France, en Algérie et au Québec. Parmi mes livres, c'est « Être non violent à Gaza », qui a eu beaucoup de succès, donc qui est sorti en 2019. J'ai des livres sur les différentes agressions donc, israéliennes, soit en été, soit en hiver, entre 2008 et 2022. J'ai des recueils de poésie qui parlent de la justice, la paix, donc Gaza, terre des oubliés, terre des vivants, donc chroniques sur les bombes à Gaza, donc j'ai beaucoup de livres donc pédagogiques, donc voilà en général donc mes livres en dehors des mes activités quotidiennes dans la bande de Gaza avec les jeunes, avec les enfants de Gaza.
Voilà, si des auditeurs veulent un peu plus te connaître, ils peuvent chez leur libraire habituel commander des livres à ton nom, Ziad Medouk, et ils pourront voir que la bibliographie est très riche. Alors, est-ce que tu peux nous décrire un petit peu, ou décrire aux auditeurs, c'est quoi la bande de Gaza ? Il y a combien d'habitants ? Je crois qu'il y a une densité terrible d'habitants. Et comment ça fonctionne avec son voisin, ses voisins, entre l'Égypte et Israël ?
Donc la bande de Gaza, donc, c'est un petit territoire de 41 km de long sur la côte orientale de la mer Méditerranée, donc d'une largeur de 6 à 12 km et d'une superficie de 365 km². Donc voilà, l'endensité populaire est très importante. Actuellement, donc jusqu'à janvier 2023, on a 2 350 000 habitants. Donc il y a une densité, il y a une augmentation du nombre de nouveau-nés dans la bande de Gaza, 3 000 à 4 000 donc, par mois. Donc même si le territoire est petit, donc c'est un petit territoire, mais ce territoire, malheureusement, il est en train de vivre, il a vécu des moments dramatiques, des périodes tragiques. Soit côté égyptien avec la fermeture permanente des frontières, soit côté israélien avec le blocus israélien inhumain imposé d'une façon illégale en juin 2006. On a encore les quatre grandes agressions, je dis entre parenthèses grandes agressions, parce que tous les jours il y a des agressions, il y a des bombardements, il y a des attaques sanglantes contre les pêcheurs, contre les paysans palestiniens contre la population, mais les grandes offensives, c'était en 2008, 2012, 2014 et 2021, donc qu'ils ont coûté la vie à presque 6 000 Palestiniens et la blessure de plus de 50 000, sans oublier la destruction massive de 30% des infrastructures civiles dans la bande de Gaza. Donc la bande de Gaza, même si c'est un petit territoire, mais il a marqué l'esprit dans le monde depuis donc, des années, depuis la première intifada qui était déclenchée donc, en décembre 87 dans la bande de Gaza, la deuxième intifada donc, en septembre 2000 après imposer le blocus, même avant l'engagement donc, des colonies israéliennes, le départ des colons, les 18 000 colons qui occupaient donc, 60% des meilleurs terrains de la bande de Gaza. Après, il y avait le changement politique avec l'arrivée de Hamas au pouvoir, après le blocus imposé, après les différentes agressions, après la crise sanitaire, jusqu'à maintenant, donc le maintien en 2023, le maintien de blocus et la poursuite donc, des agressions israéliennes. Donc, quotidien infernal pour presque 2,5 millions de Palestiniens de Gaza qui souffrent au quotidien de blocus et surtout de ses conséquences économiques et sociales, psychologiques, très désastreuses sur la population civile.
Alors, il faut peut-être rappeler comment est-ce que le Hamas, dont on entend parler souvent dans les médias, c'est un mouvement qui a été élu à l'occasion des dernières élections démocratiques.
Écoutez, le Hamas est un parti politique palestinien, donc il a été créé donc, dans des conditions donc, très difficiles donc, en 88, en plein premier intifada, parce que c'était l'OLP, le Fatah de Yasser Arafat et de président Mahmoud Abbas actuel de l'autorité palestinienne, et des partis de gauche. Et le Hamas, il a été créé en 88, en pleine première intifada, dans la bande de Gaza. Après, en 90, ils ont créé leur branche armée. Donc, ils ont commencé à mener une lutte armée contre l'occupation et contre la colonisation. Et donc, après l'arrivée de l'autorité, il y avait des élections. Et c'est l'autorité, c'est le Fatah qui l'a remporté. Donc, les premières élections, c'était en 96. Et en 2006, 10 ans après, il y avait des élections législatives et présidentielles. Et donc, les élections présidentielles, c'est le président Mahmoud Abbas en 2005 qui est devenu président. Mais en 2006, lors des élections législatives, c'est le Hamas qui a remporté les élections. Et donc, il a dominé donc, le conseil législatif. Après, il y a eu la division interpalestinienne parce qu'il y avait des problèmes entre les partis politiques palestiniens. Même si pour nous, les élections étaient libres et démocratiques, c'était sous le contrôle des observateurs étrangers, y compris les observateurs de l'Union européenne. Et après, l'occupation, il a profité de cette occasion de l'arrivée de Hamas et qu'il y a une boycott de la part de la communauté internationale. Et c'est ça le malheur des Palestiniens. C'est pas seulement l'occupation, la colonisation et l'apartheid, mais surtout le comportement, donc, et surtout le silence complice de la communauté internationale qui prétend défendre la justice, la démocratie. Or, pour le cas palestinien, même si le Hamas est arrivé au pouvoir par des élections, par les urnes, mais c'est l'Europe qui a commencé à boycotter. Donc, il n'a pas boycotté le Hamas, mais il a boycotté le peuple palestinien. Et il a imposé donc un boycott. Et après, les Israéliens, ils ont imposé un blocus. Et c'est toujours la population civile qui s'ouvre de ce blocus inhumain. أرض النجبو أرض العزة بلد الغنية الحلوة غزة
أرض النجبو أرض العزة بلد الغنية الحلوة غزة
بلدي
غزة غزة
يا بلدي ثورة شعب وجرها مع الاختيار جاي أرض ثورة شعب وجرها مع الاختيار بلدي يا بلدي
غزة يا غزة
ويا بلدي
غزة يا غزة
بلدي يا بلدي
غزة يا غزة
ويا بلدي
غزة يا غزة
أرض المجد وأرض العزة
أرض المجد وأرض العزة بلد الغالية الحلوة غزة أرض المجد وأرض العزة بلد الغالية الحلوة غزة
بلدي
غزة يا غزة
وبلدي
غزة يا غزة
بلدي
غزة يا غزة
وبلدي
غزة يا غزة
أرض المجد وأرض العزة.
Et donc, dans cette situation-là, très complexe, comment ça se passe quotidiennement pour la résistance à toutes ces menaces ?
Écoutez, nous sommes occupés et la résistance est légitime. Mais en Palestine, il y a plusieurs formes de résistance. Il y a 4 formes de résistance. Il y a la résistance menée par l'autorité. C'est une résistance offensive diplomatique, il y a la résistance par les négociations de paix, il y a la résistance par la lutte armée par les factions militaires, il y a la résistance par la population civile, ça veut dire la résiliation, mais il y a une troisième ou quatrième, c'est la résistance par la non-violence, ça veut dire défier l'occupation, soit en Cisjordanie, notamment à Gaza. Et cette résistance s'est développée en 2017 avec la fameuse marche de retour, ça veut dire des Palestiniens qui sont allés, des jeunes, des femmes, de la société civile, qui sont allés sur les frontières, sur les zones tampons. Et donc, pour explication, les zones tampons, ce sont des zones illégales qu'ils ont créées par l'occupation. Donc, après 2005, après le retrait israélien de la bande de Gaza, en 2005, l'armée de l'occupation, ils se retiraient de la bande de Gaza en plein processus de paix, mais Il a gardé, donc il a évacué les colonies illégales. Il a demandé le départ des colons, mais surtout, il a gardé trois zones tampons. Une zone tampon à l'est de la ville de Gaza, au nord et au centre et au sud de la bande de Gaza. Ça veut dire un espace de 500 mètres. Ce sont des terrains palestiniens, appartient aux Palestiniens, que l'occupation, il a mis le main sur cette zone et il a imposé, donc il a occupé ces zones. Et c'est à partir de ces zones tampons que les bulldozers et les chars israéliens mènent au quotidien des incursions et ils attaquent les paysans au quotidien. Donc ça, c'est au niveau des zones tampons. Donc c'est en 2017, les Palestiniens, après, ils ont marre de résistance militaire et surtout politique, qu'ils n'ont rien à bouter pour réaliser les revendications du peuple palestinien de la liberté et de la fin du blocus. La société civile, il a développé avec les jeunes, avec les femmes, une alternative, c'est-à-dire la résistance par la non-violence, ça veut dire des jeunes, tous les vendredis, plus de 5 000 jusqu'à 30 000, c'est selon l'occasion et selon la situation, ils vont sur ces zones tampons au nord, au sud et au centre de la bande de Gaza pour défier les soldats israéliens qui se trouvaient là-bas, mais ils défiaient les soldats avec leur poitrine nue et le drapeau palestinien. Donc il n'y avait pas ni armes avec eux, ni pierres, ni rien du tout. Et donc ils ont développé une résistance non violente. Mais la répression israélienne était très forte, oui. Et il y avait des snipers israéliens qui ont tiré sur ces manifestants pacifiques et ils ont tué donc presque 275 personnes en un an et surtout ils ont blessé 1300 et parmi les blessés il y a presque 300 amputés qui ont perdu leurs jambes et leurs pieds suite à des attaques des snipers. Donc voilà cette résistance et depuis c'est vrai il est arrêté en 2018 à cause de la crise de Covid, la crise sanitaire. Mais après, il y avait l'offensive israélienne contre la bande de Gaza en 2021 et après en 2022. Donc, il n'y a pas eu une occasion de reprendre cette résistance. Mais cette résistance était magnifique parce qu'il a réussi à attirer l'attention du monde entier, des médias. Et surtout, il a développé une alternative, c'est la résistance non violente. Et depuis, donc, les Palestiniens s'attachent à cette forme de résistance, ils continuaient leur résilience, leur attachement, en attendant une occasion pour développer davantage cette forme de résistance.
Voilà, donc ce sont des conditions de vie difficiles, et il y a des agriculteurs à Gaza, des producteurs, il y a des pêcheurs, et bien sûr, il y a plein d'autres professions. Comment est-ce qu'on arrive à travailler dans ces conditions, dans un pays qui est occupé, ou qui est sous une menace permanente d'incursion militaire ?
Écoutez, les conditions de travail, il est très difficile pour toute la population. Être professeur, être paysan, être pêcheur, être universitaire, être étudiant, être élève, être jeune, donc être écrivain, toutes les catégories de la société, ils souffrent de blocus et des fermetures de frontières et des conditions. Le blocus, ça veut dire quoi? Ça veut dire fermer les frontières, ça veut dire empêcher l'arrivée des médicaments, des denrées alimentaires, donc des appareils donc médicaux pour les centres et pour les hôpitaux. Donc voilà en général le blocus avec des conséquences sociales, économiques et psychologiques très difficiles, très importantes sur la population donc civile. Mais les deux catégories ou trois catégories qui souffrent davantage de ce blocus sont les malades, les patients qui souvent ils n'ont pas l'autorisation d'aller soit dans les hôpitaux égyptiens, soit dans les hôpitaux palestiniens de Jérusalem ou de la Jordanie, voire israélien, pour se soigner parce qu'il y a un ordre militaire de fermer les frontières et d'empêcher ces patients, ces malades d'aller se soigner. Soit l'occupation, ils ferment les frontières à n'importe quel moment, à n'importe quelle occasion et comme ça, les médicaments, ils n'entrent pas. Et souvent, on a, depuis le début du blocus, on a presque 1000 Palestiniens qui ont décédé, qui sont morts parce qu'ils n'ont pas été autorisés d'aller se soigner, soit il y avait un manque de médicaments. Deuxième catégorie, ce sont les pêcheurs de Gaza qui souvent sont attaqués par la marine israélienne qui ne respecte pas donc les limites de 6 miles, ça veut dire qu'ils ne peuvent pas dépasser les 6 miles et quelquefois, la mer de Gaza est fermée donc, devant ces pêcheurs qui continuent à travailler dans des conditions difficiles. Ils défient le blocus maritime, ils défient la situation pour gagner leur vie et pour trouver à quoi manger pour leur famille. Après, on a les paysans, les agriculteurs. Sur les frontières, souvent, ils sont surtout les paysans qui ont de terrain sur les frontières, à côté des entrepôts. Souvent, ils sont affrontés à des attaques de la part des soldats, des bulldozers, des chars israéliens qui mènent au quotidien des incursions. Et donc, les conditions de travail de toute la population, de toutes les catégories sont très difficiles, mais il y a une résistance, il y a une résilience. Et pour avoir une idée sur ce travail remarquable de la société, vous pouvez regarder les films de Gaz à la vie. Donc Gaz à la vie, c'est une chaîne YouTube et surtout une page Facebook. Mais surtout maintenant, les jeunes francophones bénévoles, ils ont créé un site qui s'appelle Gaza en français. Donc sur Internet, c'est facile à trouver. Et sur ces trois outils d'informatique d'Internet, et vous trouvez toutes les informations sur la bande de Gaza, surtout sur la continuité de la vie. Ça veut dire, les jeunes, depuis presque un an, ils ont commencé à faire des films documentaires. Ils ont fait 15 films documentaires sur toutes les catégories de la bande de Gaza. Être jeune à Gaza, être paysan à Gaza, être pêcheur à Gaza, être femme à Gaza, être écrivain à Gaza, être réfugié à Gaza, être enfant à Gaza, être sportif à Gaza, être musicien. Donc, vous cliquez sur Internet et vous trouvez facilement sur le site Gaza en français et sur la chaîne Gaza la vie. Donc, ça montre un peu qu'il y a une résilience. Il y a des côtes, il y a des difficultés, il y a un blocus. Il manque de beaucoup de produits alimentaires, de médicaments et de matériel, mais surtout, il y a une résilience, il y a un attachement à la terre. Il y a des gens de bonne volonté qui travaillent dur, voilà, comme l'éducation. Donc, les familles palestiniennes envoient toujours leurs enfants à l'école et envoient les jeunes à l'université. Le taux de scolarisation, toujours, il dépasse le 94% dans la bande de Gaza, en dépit de toutes les difficultés, comme le manque de fournitures scolaires, le manque de livres. Et donc, il y a une volonté. Je pense que c'est ça, la forme de résistance la plus utilisée par les Palestiniens. C'est la résilience, c'est l'attachement à la terre, c'est rester même à côté des ruines de leur maison, de ne pas partir. Et ça, je pense aujourd'hui, c'est la force de tous les Palestiniens, et en particulier les Palestiniens de Gaza.
Oui, donc en fait, c'est une résistance quotidienne par le fait de continuer à vivre, de continuer à se développer. Et c'est en ce sens-là que c'est une partie fondamentale du choix de la non-violence.
Oui, bien sûr, c'est ça, comme je veux dire. Il y a la non-violence, il y a trois aspects. Il y a la non-violence théorique, la non-violence pratique, surtout la non-violence comme stratégie. Donc, et pour les Palestiniens, c'est vrai, ils n'ont pas des références théoriques sur la non-violence, mais ils sont en train de pratiquer
la pratique
donc
tous les jours.
La non-violence. Ça veut dire qu'on n'a pas des protagonistes de la non-violence, comme Gandhi donc en Palestine, mais au moins on a des pratiques de la non-violence au quotidien. Ça veut dire la résilience, c'est la non-violence. Défier l'occupation par les paysans, par les pêcheurs, ça, c'est voilà. L'État palestinien, c'est une résilience. Voilà, donc la forme de résistance, la résistance par la non-violence, elle est pratiquée au quotidien. C'est une stratégie qui se développe. Et donc, voilà, c'est aller défier l'occupant sur les frontières, c'est une forme de résistance. Voilà, c'est rester à côté des ruines, des maisons détruites par les différents bombardements. Ça, c'est une forme de résistance. Donc, la résistance de la non-violence, moi, j'ai beaucoup d'articles que vous pouvez avoir, soit dans le livre « Être non-violent à Gaza », soit dans mes articles sur la stratégie de la non-violence en Palestine en général et dans la bande de Gaza. Ça veut dire la stratégie, c'est une stratégie pratique, surtout concrète et pratiquée au quotidien, à travers la résilience, à travers l'attachement, à travers la solidarité. Donc la solidarité entre les Palestiniens et Gaza, qui souffrent de blocus, qui souffrent de chômage, qui dépassent le 63 à 64% de la population civile. Donc tout cela sont des formes de résilience, de formes de résistance, qui montrent un peu que la résistance par la non-violence pourrait être une alternative, et pourra être un choix stratégique pour la population, pour se débarrasser de l'occupation et surtout pour réaliser les revendications du peuple palestinien.
Yeah, yeah, on dédie cette chanson à Palestine.
Yeah. C'est une chanson pour tous les cœurs qui crient Palestine. C'est une chanson d'espoir. D'espoir. Ya Allah et Kéri.
Ya Allah et Kéri.
C'est une chanson d'un enfant qui pleure Palestine. C'est une chanson.
حبك ساكن في قلبي وقلبي عليك حزين والروح عليك تغني والدمع تملى العين ساكن في قلبي وقلبي عليك حزين والروح عليك تغني والدمع تملى العين
d'espoir, ya Allah, ya Karim.
Est-ce que tu peux nous expliquer en fait comment on fait pour se loger? Comment est-ce qu'on fait pour trouver du travail? Où en est l'éducation des jeunes? Est-ce que tous les enfants vont à l'école? Où en est l'université? Là, tu es dedans. Comment se font les formations? Où en est la culture en fait? Est-ce qu'on peut aller au théâtre? Est-ce qu'il y a quand même des cinémas? Est-ce qu'il y a des bibliothèques? La danse, comment ça fonctionne? En fait, est-ce que tu peux nous parler un peu de tout ça?
Écoutez, donc pour le logement, donc c'est vrai, chaque agression tous les 2 ans, 3 ans, il y a des destructions des maisons, des immeubles, des bâtiments et des constructions. Et donc, mais il y a une volonté, ça veut dire il y a une volonté de reconstruire. Et donc c'est un élément très important. Et donc souvent nous, on n'a pas des bâtiments donc HLM comme en France ou d'autres pays, mais nous avons 3 systèmes de logement. Il y a les maisons privées, ça veut dire construites, héritées par les familles, et donc ils ont un beau terrain les gens, et après ils essayent de construire. Deuxième type, nous avons des immeubles, surtout des immeubles familiaux, ça veut dire souvent, comme moi j'habite avec mes 6 frères, ça veut dire j'ai 5 frères et une sœur, et chacun il a un appartement. On a hérité de notre père donc un beau terrain, et après on a construit un immeuble. Donc on peut pas construire des maisons, mais on construit des immeubles, et ça c'est le cas de beaucoup de Palestiniens. Ça veut dire on n'a pas vraiment des maisons individuelles, mais des immeubles où chaque famille il a un appartement. Et après, quand les enfants grandissent, ils cherchent d'autres beaux terrains pour construire. Donc, même si avec le manque de matériel de construction souvent interdit d'entrer dans la bande de Gaza par ordre militaire israélien, c'est difficile, mais il y a une adaptation avec cette situation. Après, on a troisième type de logement, ça veut dire les grands immeubles, ça veut dire les gens qui travaillent à Gaza, qui viennent d'autres régions, ils habitent dans ces immeubles pour des, ils louent des maisons, ils louent des appartements dans ces immeubles. Donc c'est, mais surtout les immeubles familiaux qui sont le cas répandu dans la bande de Gaza. Voilà. Même si je t'avais dit c'est difficile et surtout on a un problème de reconstruction après chaque. D'ailleurs, les maisons qui ont été détruites en 2014, je ne parle pas de 2021, jusqu'à maintenant, on a presque 30% de ces maisons qui n'ont pas été reconstruites, même s'il y a des projets internationaux, des organisations internationales, mais ce n'est pas toujours évident avec le manque de matériaux de construction. Maintenant, pour la nourriture, donc c'est vrai, il y a beaucoup de produits qui viennent via le passage d'Erez côté israélien, mais en général, on a pas des vraies pénuries de nourriture parce que, par exemple, au niveau des paysans, ils font un travail remarquable. Par exemple, les paysans de Gaza, malgré donc toutes les difficultés, les attaques des soldats israéliens sur la frontière, mais ils arrivent à disposer des fruits et des légumes donc à des prix raisonnables. Et ça, c'est magnifique parce qu'il y a une forme de solidarité. Par exemple, ces morceaux-là, les prix souvent des légumes surtout, tomates, aubergines, courgettes, concombres qui sont produites dans la bande de Gaza, les prix sur le marché sont des prix raisonnables, ça veut dire les gens, ils prennent en considération la situation économique. Quelquefois, les fruits qui arrivent côté israélien sont très chers parce que il faut payer les taxes pour les Israéliens. Mais voilà. Après, il y a quelques usines, mais ils sont pas nombreuses parce que souvent ils sont détruits par l'occupation. Mais en général, la bande de Gaza, il arrive à s'adapter. Mais le plus important pour nous, c'est pas la nourriture, mais surtout, c'est trouver donc des médicaments, c'est l'éducation. Et pour l'éducation, c'est sacré en Palestine. Ça veut dire les familles, elles encouragent toujours leurs enfants à fréquenter les écoles, même si la situation est difficile. Et d'ailleurs, la première chose que les Palestiniens les font de Gaza après chaque agression le lendemain, c'est envoyer leurs enfants à l'école, même avec la fermeture d'une semaine pendant l'agression. Mais la première chose, c'est envoyer. Et les premiers projets à reconstruire parmi la priorité pour les Palestiniens, c'est reconstruire les écoles et les classes détruites et touchées et endommagées par les bombardements israéliens. Donc l'université, même chose. L'université, nous avons un système différent parce qu'on n'a pas des universités publiques. Ça veut dire souvent les universités chez nous sont universités soit privées, soit générales. Ça veut dire les frais d'inscription sont très élevés pour pouvoir payer les salles et le matériel et les constructions et surtout les salaires des professeurs. C'est pour cela que les frais d'inscription sont très élevés. C'est autour de 500 à 600 euros par an pour, et donc c'est très élevé. C'est une somme très importante pour une paire de familles qui ne travaille pas. Donc, mais on a remarqué ici à l'université qu'il y a davantage d'étudiants inscrits à l'université chaque année. Ça veut dire, pardon, que les familles encouragent et ils préfèrent toujours la priorité pour les familles. C'est, ils peuvent emprunter de l'argent des banques ou des familles ou des proches pour des proches aisés pour payer les frais d'inscription à l'université. Même si les familles, ils savent qu'après 4-5 ans passés à l'université, ils vont se trouver au chômage, mais quand même, ils encouragent les enfants, les jeunes et surtout les jeunes filles. Par exemple, à notre université, dans toute l'université, 65% des jeunes qui fréquentent l'université sont des femmes. Et ça montre, c'est un signe positif pour, voilà. Donc, malgré toutes les difficultés, il y a une volonté d'envoyer les enfants à l'école et envoyer les jeunes à l'université. Donc, pour l'aspect culturel, donc, il y a une vie culturelle très riche, même si il est un peu limité et la culture, on peut dire c'est un luxe pour les Palestiniens parce qu'il y a une priorité. La priorité avec la situation économique, le blocus, c'est l'éducation. Donc l'éducation, c'est sacré pour nous. Après, la nourriture, les soins, la culture viendra. Donc on n'a pas vraiment des salles de cinéma, mais on a des films projetés dans des associations culturelles. On a des groupes de théâtre, on a de la danse populaire d'Abka, on a Donc, comme je viens de dire, vous pouvez aller sur le site Gaza en français. Il y a des rubriques pour la culture, pour la poésie, pour la danse, pour le cinéma. Et donc, toutes les activités culturelles. Et c'est pour cela, le site Gaza en français, c'est un site différent parce qu'il ne parle pas des événements politiques, il ne parle pas d'agression, même si l'agression est au quotidien. Mais surtout, c'est un site qui évoque souvent les événements culturels et socio-économiques dans la bande de Gaza, loin de, pour changer l'image de la bande de Gaza. Et donc, les jeunes francophones, ils ont créé ce site pour montrer la richesse de la vie culturelle, sociale, économique dans la bande de Gaza. Donc, vous trouvez sur ce site beaucoup d'événements culturels, des rencontres, des projections des films, des festivals de cinéma, des groupes de troupes de théâtre. Donc voilà, donc ça c'est, donc on peut dire que la vie est très paralysée dans la bande de Gaza avec les événements qui se passent, mais il y a une résilience, il y a une volonté, et cette volonté se transforme à travers l'éducation, à travers la culture, à travers les différentes actions de solidarité. Et donc dans tout cela, la solidarité donc prend une place très importante, parce que les familles aisées, elles essayent d'aider les familles diminuées et les familles pauvres. On a beaucoup d'associations de solidarité locale qui essayent de mener des projets pour aider. Donc il y a une phrase que je répéterai toujours, moi, dans mes interventions, que heureusement à Gaza, personne ne meurt de faim et personne n'odeur dans la rue. C'est la seule ville, moi, que j'ai visité 40 pays, y compris en Cisjordanie occupée. Gaza, c'est la seule ville au monde que personne ne meurt de faim et personne ne dort dans la rue. Et ça, c'est magnifique parce qu'il y a une solidarité sociale et familiale très forte qui essaie un peu de récompenser donc le manque. Donc je dis que Gaza, en général, c'est pas une ville idéale, mais c'est une ville contradictoire. Ça veut dire à Gaza, on trouve tout et au même chose, il n'y a rien. Donc voilà. Donc il y a une forte adaptation avec le contexte, il y a une forte résilience, il y a une forte attachement à la vie. Ça veut dire les Palestiniens de Gaza, ils aiment autant la vie qu'ils continuent la vie, parce que c'est pour cela Gaza la vie, c'est le nom de beaucoup de magasins et beaucoup d'initiatives comme la chaîne YouTube Gaza la vie et comme la page Facebook Gaza la vie en français, qui montre un peu que la vie est continuée malgré donc cette situation difficile, ce contexte particulier pour plus de 2,5 millions de Palestiniens de Gaza.
Alors justement, tu nous apportes plein d'informations. Comment Gaza a vécu la crise du Covid ?
C'est une excellente question. Justement, parce que Gaza, comme je viens de dire, c'est une ville contradictoire. Gaza, au début de les trois mois où tout le monde était bouleversé, tout le monde était angoissé par la crise sanitaire, y compris dans les grands pays avec ses moyens donc de santé, Gaza, il y a seulement un seul hôpital à Gaza, avec seulement 230 lits. Après, il y a des petits hôpitaux et surtout des centres médicaux dans toutes les régions. On n'a pas vraiment des vrais, voilà. Souvent, par exemple, pour les malades chroniques, les patients sont transférés vers les hôpitaux soit égyptiens, soit israéliens, soit de la Cisjordanie, où ils ont davantage de moyens, surtout pour le cancer. Mais Gaza, il a réussi à résister face au Covid. Les premiers trois mois, il n'y avait aucun cas de Covid qui était, donc voilà, parce qu'il y avait le blocus, il n'y avait pas beaucoup de monde, mais au moins Gaza, il a pu résister. Après la découverte, il y avait beaucoup de problèmes. Il y avait un problème des vaccins. Les Israéliens ne voulaient pas qu'ils entrent. Après, il y avait l'intervention de l'Organisation mondiale de la santé, de quelques structures sanitaires internationales, organisations qui ont mis la pression sur l'occupation pour faire entrer. Mais pour les trois mois, premiers mois, la population de Gaza, il avait un regard un peu ironique au monde. Il disait que tout le monde souffrait de ce blocus, de ce virus mortel, mais les Palestiniens de Gaza sont souvent donc épargnés de ce blocus et de ce virus qui était mortelle pour toute la population civile. Et donc ça, c'est magnifique, parce que la population de Gaza, elle a pu résister ça. Donc après 3 mois de Covid, après la découverte de quelqu'un, donc il y avait la nécessité de faire face. Donc on est passé à un double confinement, parce qu'on était déjà confiné avec le blocus, et donc la population de Gaza, il est passé à un double confinement, et le ministère de la Santé et les structures sanitaires, ils ont imposé un confinement comme les autres pays, mais après 3 mois. Donc on a vécu 6 mois difficiles entre 2019 et 2020, mais le nombre de morts à Gaza, il n'y avait même pas 1800 morts pendant les 6 mois de cette période difficile pour le monde entier. La crise sanitaire, c'est numéro un. Numéro deux, et il y avait un problème de vaccins que les Israéliens ils refusaient. Après, il y avait des vaccins, plusieurs types de vaccins. Il y avait les vaccins russes, les vaccins chinois, le vaccin britannique, américain. Mais voilà. Après, on n'a pas eu une pénurie de masques. Pourquoi? Parce qu'il y avait des usines de masques qui ont été créées à Gaza et qui ont commencé à distribuer des masques. En plus, il y avait des associations, quelques associations humanitaires locales et internationales qui ont commencé à distribuer des produits sanitaires et des masques gratuitement aux familles diminuées. Dans cette période, il y avait le renforcement de la solidarité familiale et sociale de la bande de Gaza. Donc, il y avait beaucoup de familles qui étaient confinées chez elles. Ils recevaient des masques, ils recevaient des aides sanitaires et des aides alimentaires, des colis alimentaires chez elles, confinées. Et donc, il y avait, dans cette période, on a vu qu'il y avait davantage le développement de la solidarité donc familiale et sociale. Donc ça, c'est un élément. Et donc, après la fin de cette crise dans le monde entier, même si c'est difficile, les 6 mois, c'était très difficile avec le confinement, le double confinement. Déjà, le confinement et l'isolement à cause de blocus était un sentiment horrible. Et donc, on était obligé à suivre les instructions sanitaires. Et donc, on était confiné, voire double confiné chez nous, dans cette situation donc difficile dans la bande de Gaza. Mais heureusement, on a réussi à dépasser cette situation difficile grâce à la solidarité, grâce à la volonté de la population civile, avec l'aide de quelques associations humanitaires, et donc que Gaza était épargné de ce virus mortel, même si la période était difficile pendant le confinement et pendant la propagation de ce virus mortel.
Donc pendant ce temps-là, là, les paysans pouvaient quand même continuer à produire. Comment pour manger, il fallait bien que vous ayez en fait des productions locales, quoi.
Oui, c'est ça. Donc l'attachement à Palestine et à leur terre, c'est fait partie de la résistance. Et donc les Palestiniens de Gaza, et surtout les paysans, ils ont fait un travail, ils continuent d'ailleurs. C'est comme les pêcheurs, ça veut dire les pêcheurs de Gaza, ils travaillent dans des conditions difficiles, et malgré ça, ils arrivent à disposer des quantités de poissons variées pour la population avec des prix raisonnables. Les paysans, même chose. Par exemple, les paysans, même quelquefois, leurs produits ne peuvent pas être exportés, surtout côté Cisjordanie ou soit côté israélien, mais ils s'adaptent. Ça veut dire les paysans, dans leur terrain, ils ont fait deux types d'agriculture. Il y avait des terrains réservés pour la population de Gaza. Et donc, par exemple, comme le tomate, et ces tomates, ça veut dire ces tonnes de tomates sont pour le marché local avec des prix très bas. Et donc, et après, il y avait une partie de leur terrain, c'est pour l'exportation. Ça veut dire pour l'exportation, soit côté israélien, soit côté Cisjordanie. Et donc, quand il y a le consommateur palestinien de Gaza, il reçoit sa dose donc de tomates au quotidien avec un prix très bas. Donc ça, c'est les paysans de Gaza qui font ça. Après, pour l'autre côté, s'il y aura une exportation, s'il y a une ouverture de frontières, les paysans exportent leurs tomates à l'extérieur. S'il y a une fermeture, ces tomates reviennent toujours aux consommateurs locaux. Donc, c'est pour cela on n'a pas vraiment des pénuries de surtout des légumes. Les légumes, ça veut dire les légumes les plus utilisés au quotidien, surtout comme les pommes de terre, comme les tomates, comme le concombre. Donc ça, on le trouve toute l'année avec des prix raisonnables. Par exemple, actuellement, on a les fraises. Les fraises de Gaza, maintenant, on vend le kilo à 20 centimes le kilo. Donc, mais quand il y a, parce que les Israéliens maintenant, ils ferment les frontières, ils interdisent donc la sortie de fraises de qualité de Gaza à l'extérieur. Auparavant, c'était exporté vers le marché israélien, soit au marché européen. Mais maintenant, les Israéliens, ils interdisent ça. C'est pour cela, c'est le consommateur local qui bénéficie de cette situation. Et le kilo de fraises, donc, on le trouve à 20 à 30 centimes le kilo. Et donc, ça, c'est un avantage pour la population. Donc, les paysans de Gaza, ils font un travail remarquable pour renforcer donc la sécurité alimentaire pour la population de Gaza.
Et est-ce qu'il y a des produits qui partent sur l'Égypte?
Non, il y a des produits qui arrivent de l'Égypte, mais il n'y a pas d'exportation. Parce que le passage de Rafah, c'est seulement pour les passagers. C'est pas, il n'y a pas. Il y a de l'Égypte, il y a quelques produits. Ça veut dire le passage de Rafah, c'est pas un passage international pour les produits. C'est pas comme le passage Kerem Shalom, ça veut dire côté israélien. C'est un passage donc pour l'arrivée des produits. Donc il est construit pour ça. Mais le passage de Rafah, seulement pour les passagers palestiniens. Mais pour les camions, donc il n'y a même pas 30 camions qui arrivent côté égyptien, souvent des matériaux de construction, quelques produits qui sont introuvables sur le marché. Il y avait quelques produits égyptiens, quelques médicaments, mais c'est pas une grande quantité. Les Palestiniens, soit ils sont produits localement, soit ils arrivent par la Chine ou d'autres pays, mais malheureusement par des ports israéliens. C'est pour cela. Quelquefois, les prix des produits qui arrivent de l'étranger sont très chers parce que les Palestiniens, ils payent des impôts. Ils payent des impôts aux Israéliens. Et quand ils arrivent en dehors de leur paiement des impôts, soit au gouvernement de Ramallah, soit au gouvernement de Gaza à cause de la division, parce que malheureusement, on a deux gouvernements. Et donc, un commerçant palestinien, s'il va, par exemple, importer, s'il va amener par exemple des... Non, ça veut dire, je vous donne un exemple, une voiture, quand ils arrivent à Gaza, on le vend à 25 à 30 000 euros, c'est très cher, ça veut dire cette voiture qu'on le trouve à 10 000 euros en France, on le vend 30 000 euros parce que il y a des impôts que le commerçant de Gaza, il doit payer 2 000 euros pour les Israéliens, 1 000 euros pour le Hamas, 1 000 euros pour l'autorité. Et donc, un commerçant de Gaza, il paye trois impôts. Il paye pour les Israéliens, pour le gouvernement de Gaza, pour le gouvernement de Ramallah. C'est pour cela, quelquefois, il y a des prix, heureusement, pas des produits alimentaires, mais des produits de luxe, qui sont très chers à Gaza, parce que les commerçants, les investisseurs, ils sont obligés à payer donc, des impôts très chers pour les trois côtés.
Merci pour toutes les informations. J'avais encore une question sur la place des femmes donc dans la société de palestinienne à Gaza. Le rôle qu'elles ont, bien sûr, il doit être important. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Et comment les jeunes femmes se débrouillent aussi?
Donc, contrairement aux idées, aux stéréotypes qui circulent dans les médias étrangers, ce que les femmes sont un peu opprimées, non. Les femmes palestiniennes, surtout à Gaza, ils ont un rôle très important. D'ailleurs, j'ai publié un article le 8 mars pour la fête de la Journée internationale des droits des femmes. Je rends hommage aux femmes palestiniennes parce qu'ils ont un rôle très important. Les médias, malheureusement, ils parlent pas, et selon toi, ils parlent de Gaza quand il y a des clashs, quand il y a des événements, quand il y a des missiles, quand il y a des bombardements. Mais rarement qu'ils parlent. C'est pour cela que les jeunes francophones, ils ont crié la suite Gaza en français pour informer le monde francophone sur la réalité. Et parmi la réalité, on a une rubrique femmes dans le site Gaza en français. Il y a plusieurs vidéos sur le travail remarquable des femmes. Les femmes, ils ont un rôle très important, soit à l'éducation, soit à la maison, soit dans la société, soit dans la société civile, donc soit dans les partis politiques, voilà. Donc, ils ont un rôle très important, mais il n'est pas très visible pour le monde extérieur. Mais pour nous, on a un respect pour le rôle des femmes. Par exemple, la femme est très présente. D'ailleurs, 65 à 70% des jeunes qui feront l'université sont des jeunes femmes. Donc, c'est un numéro un. Les métiers d'éducation, c'est un métier féminin. Donc, 83% des professeurs sont des femmes dans les jardins d'enfants, dans les écoles et dans les lycées de la bande de Gaza. Donc, dans la société civile, donc, on a presque 57% des associations sont des associations gérées par les femmes. Donc, il y a il y a un rôle très important dans le, et surtout il y a un respect du rôle des femmes. Donc les femmes chez nous, ils conduisent. Dans d'autres pays, les femmes, ils n'ont pas le droit de, voilà, d'ouvrir un compte bancaire, de, d'avoir un permis de conduire. Donc pour nous, les femmes, par exemple, je vous donne un exemple concret. Je ne sais pas, est-ce que c'est vrai, j'ai appris que les femmes en France, soit dans le secteur privé ou le secteur public, j'ai à vérifier, qu'il n'est pas le même salaire que les hommes. Or, en Palestine, les femmes, ils ont le même salaire que l'homme. Donc ça, c'est bien. En Palestine, c'est parmi les rares pays que le 8 mars, c'est un jour férié. Donc depuis 10 ans, le gouvernement palestinien, il a décidé que les femmes, le 28 mars de chaque année, la journée des droits de l'homme, c'est une journée fériée pour nous. Donc, voyez, donc ça montre un peu qu'il y a un respect. On a le 21 mars, c'est la journée des femmes, des mères. Donc, il y a les enfants palestiniens, ils achètent des cadeaux pour leurs mères. Donc, ça montre un peu qu'il y a un respect de rôle joué par les femmes palestiniennes. Les femmes palestiniennes, on a des femmes qui dansent la dabka, il y a des femmes qui ont créé leur propre montage, il y a des réalisatrices palestiniennes, il y a des écrivains. Donc, il y a, comme je viens de dire, donc si vous allez sur la chaîne YouTube Gaza la vie, soit le site Gaza en français, il y a une rubrique femmes, vous trouvez toutes les femmes créatrices de Gaza. Et surtout, les femmes, ils ont un rôle très important parce que ce sont elles qui encouragent les enfants à aller à l'école. C'est eux qui prennent en charge la responsabilité parce que son mari, soit il est assassiné, tué, soit blessé, soit au chômage. Et donc, ce sont elles qui essaient de travailler. Les femmes palestiniennes sont l'élan de la solidarité. Donc, il y a beaucoup de restaurants qui à la maison. Il y a beaucoup de coopératives collectives, beaucoup d'expositions, donc des produits artisanaux gérés par les femmes. Donc, il y a plein d'initiatives, plein d'activités donc gérées par les femmes. Donc, ça montre un peu que les femmes palestiniennes à Gaza, ils ont un rôle très important, soit dans les partis politiques, soit dans l'éducation, soit dans la société civile, soit dans le domaine de l'art, de la culture, de la littérature, de la poésie, et donc dans la société civile, dans les associations. Donc ça montre un peu qu'il y a un rôle très important, et surtout que les femmes sont très appréciées, très respectées par le reste de la population, même si c'est vrai, il y a la domination des traditions, ça on ne peut pas le négliger quelquefois pour des raisons donc, liées à la tradition, donc quelques femmes, ils ne peuvent pas hériter dans quelques familles, pas dans toutes les familles, donc ça existe, donc nous ne sommes pas une société idéale, mais nous sommes une société en quête de liberté, donc il y a toujours des choses positives liées à la société, et liées à la femme en particulier, mais en général, je parle en général, donc la femme, elle a le respect et l'appréciation de toute la société palestinienne de Gaza.
Merci Ziad, on va finir peut-être sur cette bonne information.
Bravo les femmes.
Voilà, on a intitulé cette émission Gaza la vie.
Il ne faut pas que Hervé et Nicolas soient jaloux, d'accord?
Non, mais il n'est pas comme ça, Hervé, on le connaît. Donc oui, tu vois, on a intitulé l'émission Gaza la vie. Donc tu nous as plusieurs fois encouragé à aller voir le site, on va le faire. Et nos auditeurs, j'espère, aussi le feront. Je voulais terminer par quand même une annonce. Pour notre prochaine rencontre du collectif Palestine 12, qui sera le 7 avril à 20h pour une conférence gesticulée avec Michel Benizri sur « Moi, français, juif arabe, comment j'ai démissionné du sionisme ?» Ça se passera à la Fabrique. Une conférence gesticulée, c'est une prise de parole publique sous forme de spectacle politique et militant. Et le spectacle mêle à la fois de la géopolitique et de l'histoire autobiographique. C'est une histoire captivante qui est racontée par un conteur. Donc rendez-vous le 7 avril à la Fabrique à 20h. On en reparlera dans les journaux. Merci Ziad. Encore une fois, on continue à communiquer. Et puis Nicolas aussi, il pourrait dire un petit peu un mot par rapport à Radio El Arzak et par rapport à Gaza la vie.
Ouais, un petit clin d'œil à Ziad. C'est vrai que pendant un certain nombre d'années, il y a quelques temps, on était encore sur le Larzak, on diffusait ce qui était posté sur la chaîne YouTube Gaza la vie. Et voilà, bravo. C'est le juste retour. Ça fait plaisir de t'entendre à nouveau.
Bravo.
À bientôt, Ziad.
Au revoir et merci. Et bon courage. Amitié.
صارت مية وصارت ألف حلت الغازي منها جف جيوش وصارت